réplique, mai 68 dans le texte, avec Ludivine Bantini et Emmanuel Loyer. Beaucoup de choses me différencient des deux invités que j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui à Réplique, et notamment, hélas pour moi, l'âge. Je ne suis pas encore tout à fait vieux, mais assez vieux quand même pour avoir, comme on dit, fait 68. J'allais sur mes 19 ans, je n'étais qu'un sans-grade, un protagoniste obscur, un anonyme étonné et fervent. Porté par la vague, j'ai défilé, j'ai scandé des slogans belliqueux, j'ai entonné du mieux que j'ai pu des chants révolutionnaires dont je découvrirais l'existence, j'ai participé à des AG tumultueuses où je découvrais aussi l'art de l'éloquence. Je ne tiens ni gloire ni honte de cet engagement. Je n'en fais pas non plus tout un plat. Et il me dicte une question préalable à Ludivine Bantini qui publie 1968 de Grand Soir en Petit Matin et Emmanuel Loyer, auteur de L'Événement 68, vous qui n'en étiez pas, vous qui avez eu une autre jeunesse, vous dont les anciens militants ont dû casser les oreilles avec leur nostalgie, qu'est-ce qui vous intrigue, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous passionne dans ce moment de notre histoire? Ludivine Bantini.
Ce qui est passionnant, c'est que c'est justement un moment où l'on décide de repassionner la vie. C'est une grève générale. Il y a 10 millions de personnes qui décident de s'arrêter, de travailler, qui décident d'occuper les lieux publics, les places, les usines, les bureaux, les magasins, les universités, les lycées, et qui par là même réenchantent en quelque sorte et les lieux et les temps, puisque ils et elles prennent le temps de réfléchir, de prendre la parole, de se retrouver, de penser à leur vie quotidienne, ou comment changer la vie. Au fond, hein, c'était les mots de Rimbaud, et je pense que c'est une des matrices de 68, changer la vie, faire en sorte qu'elle soit plus juste, plus humaine. C'est une pensée en effet de la justice sociale et de l'égalité, et c'est ça qui m'a passionnée. C'est de voir à quel point les protagonistes de mai-juin 68, par la grève encore une fois, sont porteurs et porteuses de projets, d'une véritable créativité, d'une véritable pensée politique, puisque ils et elles s'approprient la chose politique, se disent qu'ils sont légitimes à prendre la parole pour penser le commun, pour penser une société différente, alternative, et émancipatrice et à partager.
Emmanuel Loyer.
Écoutez, je ne sais pas très bien. Je crois que j'ai été conquise aussi par la beauté, en fait. La beauté des inscriptions, d'une langue politique que j'ai immédiatement ressentie comme assez inédite, en effet, par rapport aux mouvements sociaux et politiques et idéologiques et révolutionnaires du siècle. La qualité aussi de la prise de parole, par exemple dans les archives que j'ai pu voir, car moi non plus je n'ai pas vécu en direct 68. L'autre chose, c'est qu'il faut dire aussi que c'est devenu un moment intéressant pour les historiens, parce qu'il y a beaucoup d'archives, pas depuis si longtemps que ça, hein, mais depuis le début des années 2000, grâce notamment à Michel Zancarini-Fournel et toute une équipe. Des documents ont été rassemblés parce que ça m'a beaucoup aussi intéressé, que c'est très tôt un mouvement, enfin des mouvements, parce que je ne sais pas si on peut parler d'un mouvement unique, qui est très soucieux d'archiver sa propre geste. Donc il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'archives qui constituent évidemment le matériau pour l'historien.
Alors, Ludivine Bantini, Vous venez de nous dire que le temps s'est arrêté. Mmh. Et je voudrais m'arrêter à mon tour à cette expression, parce qu'en effet, mai 68 n'a pas été exactement une révolution. Mai 68 n'a dévoré ni ses ennemis ni ses enfants. Mais mai 68, et c'est pour ça que ce souvenir est assez cher à mon cœur, bien que j'ai beaucoup évolué depuis, ça a été une interruption. On a levé la tête, la conversation a empli l'espace public, et je pense à ce très beau texte de Maurice Blanchot dans Foucault tel qu'on l'imagine. Quoi qu'en disent les détracteurs de mai, ce fut un beau moment, lorsque chacun pouvait parler à l'autre, anonyme, impersonnel, homme parmi les hommes, accueilli sans autre justification que d'être un homme. Et puis, il y a cette célèbre formule, en 89, on a pris la Bastille, en 68, on a pris la parole. Le slogan que j'aime, moi, je les aime pas tous, c'est « Assez d'actes, des mots ». Et vous citez, Emmanuel Loyer, aussi une inscription de Censier, « Toi, mon camarade, toi que j'ignorais derrière les turbulences, toi, jugulé, apeuré, asphyxié, viens, parle-nous. » Mais là, c'est là que je voudrais vous interroger, Divine Bantini. Vous dites, ce qui animait 68, c'est avant toute chose le souci d'égalité et de justice sociale. Mais en même temps, on pense à vivre sans temps mort, jouir sans entrave, sous les pavés la plage. Il est interdit d'interdire. Ça a été quand même une grande révolte contre le monde, l'ancien monde guindé de conventions, de coutumes, de contraintes qui inhibaient l'individu. Donc il me semble que ça a été une révolution individualiste sous couvert d'une révolution socialiste. C'est un peu Tocqueville déguisé en marche.
Évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec vous.
Et quand je dis individualiste, je ne dis pas libéral-libertaire.
Non, j'entends bien. Alors, comme nous avons la chance de nous exprimer à la radio et que nous avons cette chance de prendre la parole là où les 10 millions de personnes qui ont participé à mai-juin 68 n'ont pas la possibilité de le faire publiquement, c'est vrai qu'il y a la nécessité aussi de revenir à la dimension très empirique de l'événement. Revenir, comme l'a dit Emmanuel Loyer, aux archives pour en montrer la complexité. Parce qu'enfermer mai-juin 68 dans ses slogans, c'est vraiment très réducteur. Dans une certaine mesure, c'est rabougrir l'événement. Il y a une poésie du politique dans les slogans que vous mentionnez, mais ce sont quelques mains situationnistes qui l'ont tracé, ou en ce qui concerne le fameux « Sous les pavés la plage », c'était Armand Gatti, dans une pièce qui venait justement d'être jouée, les 13 soleils de la rue Saint-Blaise contre justement le nouvel urbanisme destructeur des villes anciennes et des quartiers populaires. Donc, en fait, il faut quand même se rappeler, puisque vous évoquiez cette idée d'un temps en suspens, d'un temps au sens strict extraordinaire. On a vraiment le sentiment de vivre un moment historique et que plus rien ne sera jamais comme avant. C'est que tout à coup, les actrices et acteurs de 68 ont du temps. Le temps que le temps laisse, que la grève laisse. Et en particulier, il faut se souvenir que à cette époque, c'est pas tout à fait les 30 glorieuses, selon l'expression forgée a posteriori par Jean Fourastier. On travaille en moyenne 46 heures, 48 heures, voire 50 heures, et plus encore, par semaine, dans les usines, dans les bureaux, sur les chantiers du bâtiment, dans les exploitations agricoles. Et donc, celles et ceux qui participent à l'événement, comme le montrent par exemple, à la fois de nombreux archives de comités de grève, de comités d'action, de comités de quartier, mais également le film de Jean-Pierre Thorne, tourné à l'usine de Renaud Flin, Oser lutter, oser vaincre. Tout à coup, ces ouvrières et surtout ouvriers qui s'arrêtent se disent « Mais ça y est, nous avons du temps. Nous avons du temps qu'il s'agit de nous réapproprier pour penser notre travail, notre métier, l'ordinaire de nos vies et comment les changer. » C'est ça le temps en suspens aussi. C'est évidemment la poésie, dès lors la part de création que ce temps ouvre, parce qu'on n'en a pas la possibilité quand on travaille autant au cours de cette période. Il y a une très belle formule du philosophe Henri Lefebvre qui dit à propos de 68 et au cœur de l'événement, « Le temps ravivé scintille ». Je crois qu'il y a quelque chose de ça qui est fondamental dans les espoirs de 68.
Emmanuel Loyer.
Oui, je crois que c'est vrai que ça, c'est une chose qui spécifie 68. Il y a à la fois une double temporalité, la temporalité de l'événement, disons, dans sa logique de à la fois imprévisible, mais aussi de cristallisation jour après jour, dans un tempo dramaturgique tout au long du mois de mai, qui est tout à fait spécifique, disons, de l'événement politique. Et en même temps, cette chose qui est spécifique à mai 68 et qui certainement constitue une des raisons pour lesquelles on s'y intéresse, qui est cette suspension des temps, qui est un moment quand même très rare, en effet d'auto-examen finalement d'une société par elle-même. Et quand on y pense, c'est une sorte de luxe inouï que se paie la société française à ce moment-là, au sens où il n'y a rien de plus révolutionnaire d'une certaine manière, et ce serait vrai encore plus aujourd'hui, que de rompre avec le rythme effréné, l'activisme brutal de la société industrielle et post-industrielle. Donc il y a ce côté, si vous voulez, extase de l'histoire. C'est une expression de, je crois, d'Edgar Morin dans La Brèche. En fait, c'est ça, le mouvement fait brèche. Et c'est ça aussi qui, je pense, constitue sa spécificité et l'intérêt pour nous aujourd'hui.
Bien sûr, mais Edgar Morin lui-même pour essayer de penser ce que mai 68 avait de spécifique, il dit qu'il signe l'apparition dans l'histoire d'une nouvelle figure, celle du jeune.
Oui. Hein,
un mouvement socio-juvénile.
Oui.
Et le jeune, au départ, c'est malgré tout le jeune étudiant. C'est l'occupation de la Sorbonne, c'est l'occupation de l'Odéon, à laquelle Emmanuel Oeillet vous consacrez de nombreuses pages et sur quoi je voudrais revenir. Mais donc, après, sur cette révolte étudiante, c'est greffé un mouvement ouvrier dont vous soulignez à très juste titre l'importance, Ludovine Bantini. Entre les deux, il y a eu effort de convergence parce que le surmoi ouvriériste était très fort chez les étudiants, mais de on peut pas parler véritablement d'une convergence effective. Et donc, il me semble, Ludovine Bantini, que vous tirez un peu mai 68 du côté ouvrier. Vous avez raison de le faire parce que c'est une dimension oubliée, mais en même temps, il ne faut pas non plus négliger le fait que ça a été d'abord une contestation étudiante et surtout un mouvement socio-juvénile, pour parler comme...
Non, je ne pense pas du tout, parce qu'il y a 10 millions de personnes, je le répète, hein, 10 millions de personnes, ça suppose une complexité de la sociologie de l'événement. Il faut peut-être se rappeler que 68 ne commence pas tout à fait ni le 22 mars, ni le 3 mai dans la cour de la Sorbonne, ou donc le 22 mars à Nanterre. Dès janvier-février 1968, il y a une grève très importante de jeunes ouvriers et ouvrières à la Savième, à la Senormel, à Caen, avec des affrontements, donc vous connaissez, hein, monsieur.
Oui, parce qu'on en a parlé avec Jean-Pierre Le Goff ici.
C'est vraiment un moment très intéressant parce que déjà, et le préfet du Calvados s'en inquiète beaucoup, s'en alarme auprès du ministre de l'Intérieur, il y a des rapprochements entre ces jeunes ouvriers qui n'en peuvent plus de gagner de toucher de si petits salaires avec des cadences aussi effrénées, avec une convergence avec des étudiants et étudiantes qui viennent rejoindre et soutenir ce mouvement, des agriculteurs également, des salariés du secteur tertiaire, etc. Et ce que montrent très bien les archives de police dont je parle notamment dans le livre, parce que le livre que vous avez cité, 1968 de Grand Soir en Petit Matin, essaie justement de montrer l'importance, au-delà de quelques symboles qu'on ne retient en général que sous la forme d'un vernis, comme les grilles fermées de Billancourt devant le cortège étudiant le 17 mai 68. Mais il y a énormément de pratiques de solidarité concrètes entre étudiants, lycéens, agriculteurs, ouvriers, salariés de manière générale. Et ce, comme le montrent encore une fois les archives de police, dès le 3 mai, dès le 6 mai, dès la nuit, bien sûr, la première des barricades. Parce qu'on retrouve parmi les interpellés de ces moments, aussi bien de jeunes ouvriers. Hein, Paris, à ce moment-là, est encore une ville très ouvrière. Donc, il y a des ouvriers du bâtiment, il y a des tourneurs, il y a des fraiseurs, il y a des typographes, il y a aussi des employés, des cheminots, des postiers, des plongeurs de restaurants, des garçons de café, etc. Et donc, en fait, il faut quand même se rappeler que les étudiants, qui jouent un rôle tout à fait crucial en 68, ne représentent que 12% de leur classe d'âge. C'est une petite minorité. Et il et elle en ont parfaitement conscience. Que la plupart des jeunes, l'écrasante majorité des jeunes de cette époque, sont ailleurs, sont dans les usines, les bureaux, les grands magasins, les chantiers du bâtiment, les exploitations agricoles. Et en fait, ce que vous appelez le surmoi ouvriériste, hein, je pense que c'est vraiment le constat plus précisément, parce que c'est pas un surmoi qu'il s'agirait d'analyser en termes psychiques, mais c'est surtout une conscience sociale et politique que le monde du travail connaît des injustices sociales fondamentales. Vous savez très bien qu'à quelques encablures de Nanterre, il y a des bidonvilles où vivent des familles algériennes dans des conditions véritablement indignes. Et de manière plus générale, on sait qu'il y a à cette époque 5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté ou 2 millions de personnes qui vivent avec de tout petits salaires, l'équivalent aujourd'hui de 400-500 euros. Donc cette conscience-là, cette conscience sociale du monde qui fait aussi cette ouverture, cette brèche, parce que ces étudiantes et étudiants décident d'avoir cette conscience du monde social.
Vous ne croyez pas au neutre, hein, Ludovine Bantini. Le neutre en français, c'est dire les étudiants pour tout le monde.
Mais parce que les femmes ont joué, on pourrait en reparler,
mais les femmes ont joué un rôle
aussi très important. Il ne s'agit pas de contribuer à les invisibiliser, donc évidemment, elles et ils sont présents dans l'événement.
D'accord, non mais c'était juste une petite taquinerie, sans importance.
Non, je pense que
Emmanuel Loyer.
Oui, je pense qu'en effet, il y a eu un certain nombre de convergences. Il faudrait voir si on les réévalue à la hausse, à la baisse, etc. Entre les ouvriers et les paysans aussi, hein, qui c'est un monde aussi qui participe, surtout dans l'Ouest, hein, cet Ouest de la CFDT. Mais c'est vrai que c'est souvent des jeunes ouvriers et des étudiants. Donc il y a quand même cette idée que 68, là encore, est un conflit spécifique, avec une sorte de solidarité entre les jeunes générations contre les aînés. Et je crois que c'est aussi une autre chose fascinante, c'est-à-dire ce mélange d'anciens et de nouveaux. Vous parlez de surmoi ouvriériste, c'est-à-dire l'idée que jusqu'à présent, dans l'idéologie, la mythologie révolutionnaire, c'est le prolétaire qui est l'acteur.
C'est le prolétaire qui fait l'histoire.
Oui. Là, l'étudiant entre en jeu, et depuis déjà un moment, parce qu'en fait, là, le véritable début, c'est ni 68, ni 67, c'est la guerre d'Algérie. Et donc, toutes les années 60 connaissent une politisation de cette figure de l'étudiant qui devient un acteur essentiel sur la scène politique qui n'était pas. Donc là, il y a cette... Et puis, on voit bien que c'est un conflit d'un genre nouveau à travers justement, d'ailleurs, le désarroi du Parti communiste. C'est pas un conflit de classe classique. Les jeunes ouvriers ne veulent pas forcément seulement gagner plus. Ils veulent changer les rapports de force dans leur vie quotidienne professionnelle, les petits maîtres, etc.
Oui, mais vous reconnaissez vous-même politisation des étudiants. Et vous, l'une et l'autre, vous donnez une certaine importance au livre de Bourdieu. Celui qui est paru avant 68, c'est-à-dire Les Héritiers, et puis celui qui est paru dans la foulée de 68, parce que 68 a continué quand même dans les 70, la reproduction. Et il y a un certain nombre de slogans qui portent sur l'école, et cela, je ne suis pas sûr d'apprécier aujourd'hui leur poésie. L'éducateur doit être lui-même éduqué. Professeur, vous nous faites vieillir. Ne dites plus « Monsieur le professeur, dites crève salope ». Professeur, vous êtes aussi vieux que votre culture, votre modernisme n'est que la modernisation de la police. Et c'est de 68 que date, à mon avis, une confusion dévastatrice, celle du maître qui enseigne avec le maître qui opprime, Dominus et Magister. C'est la même chose. Et dans la foulée de la Grande Révolte, quand même, Ricoeur, président de l'Université de Nanterre, président doyen, je ne sais plus, a reçu sur la tête le contenu d'une poubelle. Et beaucoup de réformes de l'école sont nées de cette confusion, c'est-à-dire l'idée que, là je cite Bourdieu, l'autorité est une violence symbolique. L'autorité est une violence symbolique, donc il faut faire les cours autrement, supprimer le cours magistral, etc. etc. Je crois que les conséquences ont été assez graves. En tout cas, j'insiste sur ce fait. La question scolaire a été au cœur de 68 et des années qui ont suivi parce que c'est d'abord un mouvement de contestation étudiante.
Non, mais je constate qu'en dépit des livres, en dépit, encore une fois, du travail de l'avancée historiographique, vous vous appuyez essentiellement sur des slogans. Et en fait, ces slogans, encore une fois, ils ont été tracés par quelques mains qui ne sont pas représentatives de l'ensemble de la mobilisation. Si vous vous plongez, comme on est quelques-uns et quelques-unes à le faire, dans les archives, justement, des lycées mobilisés, j'essaie d'en rendre compte dans ce livre. Vous vous apercevez, et je pense que vous seriez d'accord, Monsieur Finkielkraut, avec les lycéennes et les lycéens qui écrivent à ce moment-là, parce qu'il y a une vraie... Bah oui, d'ailleurs, vous en étiez peut-être. Mais il y a un vrai amour du savoir, une vraie soif du savoir dans ces textes, dans ces élaborations, dans ce que ces élèves appellent même des cahiers de doléances. Parce qu'ils veulent se réapproprier le savoir, avoir un autre rapport beaucoup moins passif, non pas d'ingestion, mais un rapport d'appropriation du savoir et de la culture. Et d'ailleurs, 68 tout entier est un moment où la culture se réapproprie. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de protagonistes, y compris dans les usines, qui se disent « mais le temps nous laisse aussi la possibilité d'exprimer ce qu'il y a de part en nous, d'art ». Il y a des ouvriers qui dessinent des fresques sur les murs de leurs usines. Il y a vraiment toute une réflexion sur la nécessité de se réapproprier et la culture et les savoirs. Mais c'est vrai que c'est une manière de faire descendre le savoir de son piédestal, de faire en sorte que son appropriation soit plus commune, plus collective. Et donc, Moi, j'ai été très frappée, au contraire, par la grande intelligence pédagogique des élèves de lycée qui se mobilisent en 1968. Et on aurait tout à apprendre de leur texte et de leurs propositions, parce que c'est vraiment un moyen de faire en sorte que le savoir et la culture soient vivants.
Emmanuel Loyer, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui et non, c'est-à-dire que bon, je pense que 68 c'est un moment de crise, de parce que en fait il y avait déjà depuis l'après-guerre une politique culturelle démocratisatrice, politique culturelle menée notamment au théâtre. Je rappelle Jean Villard, le TNP et évidemment les maisons de la culture. Mise en place par Malraux à partir du début des années 60, Malraux qui, je le rappelle, était ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle, de la Ve République. Il est vrai que ces maisons de la culture, toute cette politique culturelle qui était une politique de l'offre, si vous voulez, culturelle, en essayant de faire venir, si finalement les ouvriers, les classes moyennes, etc., sociologiquement, a été une sorte d'échec programmé, j'allais dire. C'est-à-dire que les étudiants sont venus, les classes moyennes, les professeurs, etc. Mais en effet, les étudiants ont beau jeu, les étudiants gauchistes ont beau jeu de dire il n'y a pas d'ouvriers dans les maisons de la culture. Donc cette conception-là de la politique culturelle de démocratisation culturelle, ce qu'on appelait la politique de démocratisation culturelle, elle est remise en cause très fortement en 68.
Voilà, quand même.
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est autre chose. Et du coup, ils vont en effet réfléchir, notamment les metteurs en scène à Villeurbanne. Et c'est vrai que 68 accouche de nouvelles notions, que ce soit la création collective, par exemple. Et aussi, évidemment, les notions de créativité, l'idée que, en effet, l'essentiel n'est pas d'aller à tel ou tel concert, d'aller voir telle pièce de théâtre, mais de faire soi-même du théâtre. Donc voilà, c'est une autre façon de voir les choses. Et de ce point de vue-là.
Vous voulez intervenir, Ludivine?
Oui, non, mais simplement, puisque Emmanuel Loyer parle à juste titre des théâtres, les théâtres ne sont pas seulement occupés, mais ce sont des lieux vivants où représentent des pièces. Je pense, par exemple, parce qu'il ne faut pas non plus toujours se focaliser sur les mêmes lieux, même s'ils sont importants, comme le théâtre de l'Odéon.
Ben, quand même.
Mais vous savez, il y a beaucoup de théâtres à Marseille, à Châtellerault, à Lille, à Saint-Étienne, qui donnent des représentations en soutien aux grévistes, ou même la presse s'étonne de voir que le public y est beaucoup plus divers sociologiquement qu'habituellement. C'est très intéressant parce qu'il y a vraiment cette pensée de s'approprier la culture et en particulier le théâtre.
Alors quand même, là je vais vous citer Emmanuel Loyer dans votre livre L'événement 68. À Sancier, une commission de lettres critique les humanités sélectives et met en place une sous-commission consacrée au langage littéraire, scolaire et universitaire comme véhicule de valeurs de classe et comme moyen de sélection sociale. Critique de la syntaxe et de son rôle sélectif, puisqu'elle rejette aussi toute autre structure grammaticale existante par ailleurs. Et puis, quand même, l'Odéon, c'est pas rien, l'Odéon. Objectifs poursuivis, je vous cite encore, c'est le sabotage de tout ce qui est culturel, théâtre, art, littérature, de droite ou de gauche, gouvernementale ou d'avant-garde. Et il faut se souvenir de ce qui s'est passé à Avignon en juillet. Porteur de cette idée du théâtre national populaire, Jean Villard a été contesté, chahuté, précisément, au nom d'une autre idée de la culture. Mais c'est quand même, je veux dire, ce qui distingue mai 68, et là je me dirige vers vous, Ludivine Tantini, ce qui différencie mai 68 d'autres mouvements qui ont pu émerger au même moment, et dont vous dites, vous, qu'ils sont chacun les facettes d'une même révolte. Parce que ce qui se passe à Prague et ce qui se passe à Varsovie est d'un tout autre ordre. Et Kundera l'a écrit. À Prague, c'est une explosion de scepticisme post-révolutionnaire et non pas de lyrisme révolutionnaire. Ce n'est pas un mouvement de jeunesse, même si la jeunesse y a pris part. C'est un mouvement d'adultes et une révolte populaire des modérés. Et surtout, il dit... Le mai parisien mettait en cause ce qu'on appelle la culture européenne et ses valeurs traditionnelles. Le printemps de Prague, c'était une défense passionnée de la tradition culturelle européenne, dans son sens le plus large et le plus tolérant du terme, la défense autant du christianisme que de l'art moderne, tous deux niés pareillement par le pouvoir. Et et Varsovie. C'était des étudiants. Mais pourquoi se sont-ils mis en grève? Pourquoi se sont-ils révoltés? À cause de l'interdiction d'une pièce de Mickiewicz, le poète polonais du 19e siècle, Les Aïeux. Donc, il y avait quelque chose comme la défense de la culture et de la tradition culturelle, ce qui nous met aux antipodes du mouvement critique de 68, parce que la culture était l'objet principal, ou pas principal, était l'un des objets de cette critique, Ludovine Bontigny.
Non, alors j'aime beaucoup Kundera, d'ailleurs je cite le livre du rire et de l'oubli à la fin de l'ouvrage sur 1968, parce qu'il est vrai que l'écrasement du soulèvement de Prague par les troupes du pacte de Varsovie a aussi signé pour partie la mort de certains espoirs révolutionnaires qui avaient émergé justement à Prague et qui circulaient beaucoup, d'ailleurs depuis aussi les textes de la Pologne, de la Hongrie également. Ça circule énormément dans les lieux occupés, notamment en Europe occidentale et dans les universités, parce que l'aspiration qui se déploie à Prague, c'est celle d'un socialisme démocratique avant tout. Je ne sais pas si Kundera a raison de dire qu'il s'agissait de défendre le christianisme de la civilisation européenne. Il me semble que surtout, ce qui s'était produit aussi bien à Budapest qu'à Prague, en 1956 comme en 1968, c'est la volonté de préserver l'espoir du socialisme, mais sans l'autoritarisme écrasant et meurtrier de la bureaucratie des régimes qui, à très mauvais escient, s'appellent des démocraties populaires qui n'ont rien de démocratique et n'ont pas grand chose non plus de populaire. Mais vous avez, enfin, je m'inscris en faux encore une fois, je suis désolée d'y insister quand vous pensez et persistez dans l'idée que 68 aurait été une destruction de la culture, du rapport au savoir, que 68 aurait été nihiliste. Voilà, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup fascinée en travaillant sur de très nombreuses, abondantes et foisonnantes archives, c'est justement l'amour de la culture, la volonté de la partager. Et puisque vous soulignez le rôle des étudiantes et étudiants, c'est vrai que la conscience qu'ils ont, c'est de n'être qu'une petite minorité, voilà, issue de milieux aisés. Il y a moins de 8% d'enfants d'ouvriers dans les universités à cette époque. Il y a moins de 4% d'enfants d'agriculteurs. Et donc, c'est toute une interrogation, en effet, sur l'idée d'une ouverture qui participe aussi de manière plus générale. C'est pas seulement ouvrir l'université au monde ouvrier, aux jeunes enfants d'ouvriers ou de familles populaires, mais c'est vraiment reconsidérer la société dans son ensemble. Et à cet égard, puisque vous mentionnez la question de la langue, enfin, faut quand même se rappeler que, par exemple, puisqu'on a parlé du théâtre, toute l'histoire du théâtre est une histoire aussi d'une avancée par subversion, par mise en cause. La querelle des anciens et des modernes sans cesse revitalisée et réactivée. Et donc, la langue elle-même évolue. Et je ne vois pas très bien en quoi ce serait un problème nihiliste que d'avoir voulu aussi faire revenir à l'histoire de la langue et en montrer toutes les possibilités, toute la beauté dans son évolution même.
Oui, non, mais j'ai pas parlé de nihilisme, c'est pas le mot, je l'ai pas utilisé. C'était quand même l'idée d'une rupture avec une culture traditionnelle, une manière traditionnelle d'aborder les choses. Et il me semble que ce qui distingue le mouvement français de 68 de ce qui s'est passé en Europe centrale, où l'inscription dans une tradition jouait un rôle essentiel.
Non, mais je crois que c'est aussi
Emmanuel Loyer.
Je crois que là il y a quelque chose de très français parce que c'est lié aussi à cette politique culturelle mise au sommet de l'État. Et donc ça date pas de 68. Si vous regardez les situationnistes, si vous voulez, il y a une critique vis-à-vis aussi de la révérence à l'égard de l'autorité culturelle, de l'autorité artistique, parce que les milieux artistiques ne sont pas des milieux dépourvus de rapports d'autorité, de rapports des rapports sociaux conflictuels, etc. Vous avez tous les écrivains, les théâtreux, les artistes vont aussi eux-mêmes se réunir pour entamer ce même mouvement finalement de réflexion sur, parce que une équipe de production théâtrale, il y a un chef ou une chef, voilà. Il y a des, je veux dire, c'est aussi des milieux, les tournages cinéma, c'est la même chose. Et ils le savent très bien, ou des rapports entre hommes et femmes aussi, c'est d'ailleurs pas
bien que ensuite
dans les alliés de la hiérarchie. Le talent, c'est ça aussi, le talent, l'idée de talent, de don, enfin il y a toute une idéologie romantique finalement de la création artistique qui est fondamentalement non démocratique, donc ça aussi ça va être mis en cause.
Ah oui.
Mais je pense que là, si vous voulez, c'est même pas tellement 68, hein, c'était là déjà avant, encore une fois, si on regarde, enfin je veux dire par exemple les situationnistes, comment ils parlent de Godard avant même le plus con des Suisses pro-chinois, c'est la marchandisation culturelle, etc. C'est une critique qui existe avant, je crois.
C'est très injuste pour Godard, qui a été un 68-art fervent. et tellement fervent d'ailleurs qu'il s'est opposé violemment à Truffaut sur ces questions, notamment sur la question de l'école. Truffaut disant « Je ne pense pas que les écoles soient des prisons et je ne me console pas de n'avoir pas reçu la formation qui me permettrait de lire le Flaubert de Sartre. » Et Godard disant que l'enseignement de l'université est dicté par un objectif, son intégration dans le capitalisme, sa mise à son service. Et il a fait un film France des tours, tour des tours de deux enfants, et il interroge ainsi une petite fille de 9 ans, Camille. Y a-t-il un rapport entre une école et une armée? Les soldats en tenue sont bien rangés le 14 juillet. Quand vous êtes en classe, vous êtes bien alignés les uns à côté des autres. Et la pauvre Camille est obligée de répondre oui à ces questions-là. Mais je voudrais en venir à un autre aspect de 68, qui est le souvenir. Et d'ailleurs, toutes les révolutions sont des révolutions du souvenir. On évoque des anciens pour se donner du courage. Mais en 68, ça a joué un grand rôle. Il y a la Commune, il y a la Révolution d'Octobre, et vous y insistez toutes les deux, il y a la Résistance. Ça, je le sais, pour y avoir participé. Je sais ce que ça représentait pour nous. Nous étions des baby-boomers. Donc nous disions, nous vivions dans le confort et nous en avions un peu honte. Et 67, c'est la date de la panthéonisation de Jean Moulin. Donc nous avons voulu combler le fossé qui nous séparait de ces grands hommes un peu écrasants. C'est en cela, d'ailleurs, qu'on peut parler d'un psychodrame sans que l'expression soit péjorative. Mais l'un des caractères de 68, ça a été l'obsession de la résistance et la haine du drapeau tricolore. Vous y incitez toutes les deux. Vous citez toutes les deux cette phrase. Terrible morceau de drap cloué à ta hampe. Je te hais férocement. Oui, je te hais dans l'âme. Je te hais pour tout ce que tu représentes, pour le sang frais, le sang humain aux âpres odeurs qui gicla sur tes plis. Je te hais au nom des squelettes. Je hais en toi la vieille oppression séculaire, le dieu bestial, le défi aux hommes que nous ne savons pas être. Je hais les sales couleurs, le rouge de leur sang, le bleu que tu volas au ciel, le blanc livide de tes remords. Très roman, très lyrique, très beau. Mais quand même, justement, la résistance, c'était la défense des frontières, et ça, elle avait évidemment un caractère national. Et que s'est-il passé en 2015?
Mais la résistance dont il se... La résistance de notamment qu'ont en tête, en effet, ces jeunes révolutionnaires, c'est très passionnant, qui on veut faire du passé table rase, mais en fait, ils sont emplis, en effet, d'une culture historique tout à fait étonnante. Mais c'est pas la résistance défense des frontières et tout ça, c'est même pas la résistance la France libre. Eux, ce qui les fait vibrer, c'est les FTP Moy, c'est les maquisards, c'est justement... tous ces étrangers juifs notamment c'est l'affaire Manoukian, c'est pas du tout de Gaulle, c'est plutôt, même si de Gaulle évidemment c'est un peu compliqué en France,
oui, mais même la résistance intérieure, c'était quand même les frontières avaient été franchies par l'Allemagne nazie,
et c'est l'armée des ombres.
Je voulais quand même préciser que le texte que vous avez longuement cité, et qui est en effet un très beau texte, n'est pas un texte de 1968, c'est un texte de Jean Zay. C'est un texte de Jean Zay qui a été repris, mais justement qui est utilisé dans certains textes de 68, mais évidemment avec le nom de son auteur. Hein, c'est un texte qui avait été écrit en 1924. Pourquoi? Évidemment, parce que le drapeau tricolore, c'était aussi en son nom qu'avait eu lieu la boucherie de la Première Guerre mondiale. Et donc il y a aussi toute cette conscience. C'est pas ce que vous appelez la haine du drapeau tricolore. Évidemment, ça n'a rien à voir avec une haine. Par exemple, du surgissement du drapeau tricolore en 1792, mais c'est simplement ce qu'il a pu représenter à certains moments de répression de mouvements insurrectionnels, ouvriers ou révolutionnaires. Et donc, vous avez dit à quel point, en effet, la Commune de Paris était importante. La Commune de Paris, la Commune n'est pas morte. Justement, il y a du théâtre de rue qui met en scène la Commune. On réédite Jules Vallès, Le Cri du Peuple. Et en fait, c'est pas du tout uniquement les gauches révolutionnaires hein, qui se se réapproprient le drapeau rouge et le drapeau noir, mais vraiment sur les devantures des usines, au sommet de certaines tours de gare, etc. On plante le drapeau rouge parce que c'est le symbole aussi de la lutte ouvrière. Voilà, c'est surtout ça. C'est pas du tout. Il y a un internationalisme en 1968. Je pense qu'on en a pas assez parlé. Il faut quand même se rappeler qu'il y a trois brèches, puisqu'on a parlé de brèches, trois brèches principales qui secouent et fragilisent les grandes puissances. Il y a la guerre du Vietnam et donc l'importance de ce qu'on nomme beaucoup à l'époque l'anti-impérialisme, le refus de l'intervention militaire des États-Unis au Vietnam. Et c'est là que la référence à la résistance joue, parce que certains peuvent avoir le sentiment que le peuple qui résiste, c'est le peuple vietnamien sous les bombes et le napalm des États-Unis. L'autre brèche, c'est bien sûr Prague, on en a parlé. Et la troisième, c'est le soulèvement de nombreux peuples dits du tiers-monde pour leur autodétermination et leur liberté. Tout ça ébranle énormément les actrices et acteurs de 68 en Europe, avec le sentiment de solidarité nécessaire et cette conscience du monde qui les anime intensément.
Oui, alors vous dites internationalisme, c'est vrai, mais le drapeau rouge, dans les années qui ont suivi, Ludivine Mantini a perdu son innocence. Il faut tenir compte de ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire avec la dissidence, la prise de conscience de l'horreur totalitaire et pour certains, une prise de distance avec certains, avec des slogans de 68, du fait de cette réflexion. C'est-à-dire quand vous dites tout est politique, par exemple, un des slogans de 68, eh bien, vous êtes amené à penser à la lumière de l'expérience totalitaire que c'est à partir du tout est politique que le pouvoir peut se mêler de tout. Et donc on retrouve les vertus, non pas du libéralisme économique, mais du libéralisme politique, tel que l'a défini Benjamin Constant. Benjamin Constant est relu à ce moment-là. Qu'est-ce que la liberté des modernes? La jouissance paisible de l'indépendance privée. C'est-à-dire, il y a des choses qui doivent sortir de la juridiction du pouvoir. Et pour cela, peut-être, faut-il remettre en question la phrase du tout est politique. Deuxième prise de distance, plus tardive, en 68, la nation a été remplacée par la société. Et dans les années qui ont suivi aussi, et on a assisté ces temps derniers, sous les coups du terrorisme, à la redécouverte de la nation. Je pense à ces slogans du 11 janvier 2015. Je suis Charlie, je suis juif, je suis la police, je suis la République. C'est-à-dire de CRSSS à je suis la police, il y a quand même un gouffre. Alors ensuite, on a eu Nuit debout et tout le monde déteste la police. Mais tout de même, c'est apparu. Tout d'un coup, la nation s'est remise à exister parce qu'elle était visée en tant que telle. Donc tout cela crée, et la question totalitaire et la question de l'islamisme, crée une distance avec 68. Emmanuel Loyer.
Bon, pas tellement, parce que la critique anti-stalinienne, elle est faite par les 68ards, par exemple. Ça, c'est quelque chose peut-être qu'il faut souligner aussi. Idéologiquement, les 68ards les plus politisés sont déjà ont lu, ils se réclament d'un marxisme totalement révisé. Donc je crois que ça, c'est pas du tout quelque chose, c'est quelque chose qui est présent même avant 68.
Oui, mais on chante international, on hisse le drapeau rouge, et c'est devenu beaucoup plus difficile après, justement, que la dissidence a parlé, si vous voulez. La parole de dissidence a été quand même un moment de prise de conscience très important pour cette génération, en tout cas.
Ouais, mais quand même. Emmanuel non, c'est Louis. Des gens qui, dans les années 60, lisent socialisme ou barbarie. C'est les premiers qui effectuent cette critique.
C'est vrai. Castoriadis, qui a été un des grands théoriciens de 68. Voilà. Ça, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Et Ludivine Mantini.
Non, mais enfin, chanter l'international n'a rien d'un sacrilège. Au contraire, enfin, voilà, se dire debout les damnés de la terre, c'est quand même, ça reste un beau chant, quand bien même des régimes totalitaires et meurtriers l'auraient bafoué et piétiné au pied. Donc, non, il y a vraiment. Je pense que vous ce que vous dites sur le slogan ou la perspective, parce que c'est bien davantage qu'un slogan, tout est politique, c'est pour partie, excusez-moi, une sorte de contresens dans l'interprétation, parce que c'est justement complètement déconnecté du pouvoir, tout est politique. Vous dites, ah oui, ça veut dire que le pouvoir a justement tout pouvoir de s'emparer de tous les domaines, et c'est le contraire, c'est que tout est politique, c'est le politique C'est ce que montre 68 par la mobilisation, par les comités d'action, comités de grève, comités de quartier, comités, les assemblées, c'est se réapproprier la chose politique, un peu à la manière d'une agora antique, c'est-à-dire que justement le politique, ce ne sont pas les institutions, ce ne sont pas les élections, ce ne sont pas les gouvernements, le politique c'est vous et nous, à partir du moment où nous décidons de nous retrouver, pour nous retrouver aussi légitimes à nous approprier les thèmes qui nous sont communs. Et tout est politique, ça veut dire aussi qu'il s'agit de mettre dans le champ du politique des questions essentielles comme la place, les rapports femmes-hommes, la place des sexualités, la place de la ville, de l'écologie. Voilà, c'est une manière de se dire que ces questions qui relevaient d'ailleurs du carcan, du la cage et du fort privé sont devenues des enjeux politiques parce qu'il faut pouvoir s'en émanciper aussi pour partie.
Oui, mais je ne dis pas que ça mène directement, c'est un appel au pouvoir, mais quand le pouvoir devient totalitaire, c'est au nom de l'idée que tout est politique. Il se mêle de tout, non pas en tant que pouvoir, mais en tant que force qui a mission, si vous voulez, de refaçonner l'être humain. Et dans le tout est politique aussi, au sein de la lutte, il y a la division du monde en deux camps. Et la division du monde en deux camps, c'est la manière, par le manichéisme, de conjurer le maléfice de la vie à plusieurs. Et là aussi, la dissidence nous a appris que les choses n'étaient pas forcément aussi simples et que pour penser le monde, il fallait peut-être descendre de la barricade. Parce que si le monde est divisé en deux camps, au bout du compte, il n'y en a plus qu'un qui se retrouve légitime. Donc c'est cet ébranlement, si vous voulez, que je voudrais simplement vous faire sentir.
Je pense que c'est trop schématique de dire division en deux camps. C'est le politique et de la conflictualité. Justement, le politique, c'est pas le circuler, il n'y a rien à voir. Le politique, c'est pas travailler et vaquer à vos affaires, les affaires du monde, nous les gérons nous-mêmes. Justement, 68, c'est nous décidons de nous réapproprier ce qui nous appartient. C'est la prise de parole dont on parle tant, c'est une manière de dire nous avons légitimité à nous occuper de nos affaires et de ne pas les gérer et ne pas les laisser gérer par les seuls grands de ce monde. C'est ça aussi la chose politique. Donc ça n'a rien à voir avec le totalitarisme. Comme Emmanuel Loyer l'a souligné, c'est vraiment l'opposé de la pensée totalitaire.
Emmanuel, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, tout à fait. Juste pour dire simplement que, par exemple, à la fois sur le, disons, non pas le mépris, mais disons une sorte d'indifférence à l'égard du politique constitué, les étudiants occupent la Sorbonne, occupent l'Odéon, mais il ne leur vient jamais à l'idée d'aller occuper l'Assemblée nationale ou le Sénat, par exemple, ou bien l'Élysée. Donc on n'est pas du tout dans un schéma de... C'est pas la prise du palais d'hiver. Là encore, une révolution, non, un scénario vrai. Très différent. Et en effet, on assiste en 68 à une sorte de dilatation, finalement, de ce que le politique veut dire, mais qui n'a pas à voir avec le totalitarisme, qui a à voir simplement avec cette espèce de perplexité aussi, parce que je ne sais pas si c'est si décidé que ça en mai 68, c'est surtout, je trouve, une sorte de suspension de l'ordre naturel des choses, des rapports entre les hommes et les femmes. Alors, c'est pas qu'on sait à l'avance ce qu'on va dire, c'est plutôt une sorte de suspension, d'abstraction et de remise en cause, on va dire, de l'ordre naturel du monde, des positions assignées, etc. Et un certain nombre de choses qui allaient de soi, comme les rapports entre les hommes et les femmes, par exemple, mais aussi des rapports entre l'actrice et le metteur en scène, puisqu'on parlait de ça, ou des rapports entre l'ouvrier et le petit maître, comme il l'appelait. Tout ça est mis en discussion. Donc je crois qu'il n'y a pas non plus... c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, en 68, c'est cette espèce de suspension du sens. D'ailleurs, c'est très étonnant de voir que les acteurs... l'exprime à plusieurs reprises, ils ne savent pas très bien ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui,
ça fait partie...
On était étonnés, c'est ce que j'ai dit au début, bien
voilà,
sûr.
Mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut...
Nous avons été tous les acteurs de 68...
L'imprévisibilité...
Disons, la grande majorité ont été pris au dépourvu par l'événement.
Oui, et ça, et tout à fait. Et aussi bien, d'ailleurs, les plus politisés, même si on peut, ça n'empêche pas, on peut évidemment, nous les historiens et les sciences sociales peuvent réinscrire 68 dans des logiques d'intelligibilité, des causalités dont on a déjà parlé, à la fois sur le plan international, national, sociographique, je dirais, qu'on connaît. Mais l'imprévisibilité demeure. Et je repensais aussi à cette chose, à cet article de Pierre Vincent-Panté, dont on parle souvent pour un peu ironiser. La France s'ennuie en avril 68. En relisant l'article ensuite, c'est évidemment facile de dire ces journalistes ne comprennent rien, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose un peu de la mélancolie historique aussi de... de ce qu'on peut appeler les générations du lendemain. Et je rebondis là sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est aussi cette situation historique de ces jeunes gens qui, en effet, ont l'esprit bourré de l'histoire héroïque de la résistance, etc. Et je me suis dit ensuite que cet article de Viançon-Ponté était peut-être aussi une expression de cette mélancolie historique.
Oui, et pour aller dans votre sens, je voudrais citer un extrait du beau livre d'Annie Ernaux, Les années. La famille, l'éducation, la prison, le travail, des vacances, la folie, la publicité, toute la réalité était soumise à examen, y compris la parole de celui qui critiquait, sommé de sonder le tréfonds de son origine, d'où tu parles, toi. La société avait cessé de fonctionner naïvement, acheter une voiture, noter un devoir, accoucher, tout faisait sens. Donc là, ça va justement dans votre sens. Mais alors d'un autre côté, vous avez cité Jean Zay, enfin j'ai cité Jean Zay en oubliant que c'était Jean Zay, vous. Et c'est vrai, mais 68 a retenu Jean Zay et 68 a oublié André Suarez, 1939, où l'on tient à la nation et le sentiment national exige qu'on le défende, où l'on ne tient ni au sol natal, ni à la langue, ni à l'œuvre de 20 siècles, ni à tant de beauté, de vertu, de création originale, qu'on ose alors le dire, et que l'on consente à livrer la nation aux ennemis qui veulent la détruire. Voilà du moins qui sera net, sincère, sans fausse raison ni équivoque. On aura confessé par là qu'on est étranger au pays où l'on vit, et on l'est en effet. Ça, c'était le traumatisme de Munich. Et c'est vrai, on pensait à Jean Zay en 68, on ne pensait pas à André Suarez. Mais je voudrais aussi vous interroger pour finir, enfin dans les minutes qui nous restent, sur un autre aspect de 68, c'est-à-dire le triomphe de la spontanéité sur les conventions et les bienséances. Quand même, ça a été très important. Hein. On laisse les manières à la bourgeoisie expirante. On ne s'embarrasse plus de formes. Et des contraintes du savoir-vivre. C'est le début de la fin de la cravate, 68. Mais justement, que se passe-t-il ? On se rend compte aujourd'hui que la spontanéité n'est pas toujours cool, que elle peut passer par des comportements bruyants, péremptoires, par des agressions même. Et il y a un mot qui a surgi dans la langue du 21e siècle, c'est le mot d'incivilité. Et donc la civilité nous revient par l'intermédiaire de son antonyme. Et nous prenons conscience que l'inhibition n'est pas un rappel à l'ordre, mais peut-être un rappel à l'autre. Et ça aussi, c'est un fossé qui se creuse entre nous et 68.
Non, mais il y a un vrai problème à attribuer à 1968 tous les maux supposés de la Terre. On a parlé tout à l'heure de l'individualisme ou du néolibéralisme. Alors maintenant, ce sont les incivilités, mais vous savez, non, il y a même des témoignages. Je vais vous citer un témoignage qui peut vous paraître anecdotique, mais qui est savoureux. C'est un ancien étudiant qui fait la chaîne, qui passe des pavés à son professeur, qui est lui-même impliqué dans la chaîne pour dépaver les rues et qui lui dit à chaque fois merci monsieur bon. Mais je pense que c'est une erreur de voir en 68 le berceau d'une espèce d'insolent généralité ou généralisée ou ce que vous avez appelé les incivilités.
Le berceau des incivilités, pas du tout. Non, mais alors, la spontanéité, ça veut dire quelque chose de merveilleux. Mais les incivilités sont venues après, oui. Et tout d'un coup, on s'est dit la civilité c'est bien, et donc on s'est dit la spontanéité n'a pas que les aspects merveilleux que nous décrivions en 68.
Mais la spontanéité, 68, c'est vrai que c'est une irruption, ça a été à l'instant évoqué par Emmanuel Loyer, c'est-à-dire il y a une matrice, il y a des conditions matérielles qui peuvent expliquer ce surgissement, mais ça reste une irruption dans ce qu'elle a d'inouï, d'inédit, et donc cette part de spontanéité, elle est en effet très, très vivace et très créatrice, mais elle est aussi très organisée. Enfin, voilà, il y a un respect aussi de l'autre dans les assemblées, dans les comités. Il y a quand même ce souci de l'autre qui est à milieu de ce que vous avez nommé les incivilités. En revanche, c'est vrai que ce qui est contesté, c'est l'ordre, tant qu'il est interrogé. Par exemple, on dit les forces de l'ordre, mais quel ordre protège-t-elle ? Quel ordre moral, social, politique protège-t-elle ? C'est ça qui est le cœur de 68.
Emmanuel Loyer.
Oui, et puis 68 est plein de, je dirais, de destinées possibles et d'horizons, disons, de développement divers. Ce qui est très frappant, c'est que de toute façon, on est dans un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre. Le monde de 68 est quand même très loin du nôtre.
Exactement.
Les étudiants ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, ils n'ont pas le même look. Ce sont des petits messieurs en 68. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout dans le même monde. Donc, on a tout à fait le droit d'aller chercher des choses en 68, de se référer à 68, mais c'est vrai que voilà, on opère dans des mondes qui n'ont rien à voir.
Oui, justement. C'est-à-dire, Van Hegem dit volonté de vivre authentiquement et sans limite. Tout est possible en 68. Et justement, aujourd'hui, nous vivons, pour parler comme Antonas, la conversion du principe espérance en principe responsabilité.
Oui, non mais...
Tout n'est plus possible. Nous surgit aujourd'hui la question des limites.
Non mais
et ça, c'est pas dire, la question 68 tarde.
Le dire de cette manière, c'est déjà nous assigner justement à renoncer au possible. Vous voyez, citer Hans Jonas, comme vous le faites très régulièrement, c'est nier la possibilité même du principe espérance. Et le principe espérance anime encore beaucoup, d'ailleurs, d'anciens qui ont participé à 68, parce que le principe espérance continue d'être vivace dans cette génération, quand bien même certains y auraient renoncé et sont aujourd'hui les figures charismatiques qui occupent le champ politico-médiatique. Mais ce principe espérance anime aussi toute une partie de la jeune génération qui ne cherche pas à faire de 68 un fétiche ou un modèle qu'il s'agirait de reproduire, mais une source d'inspiration parmi d'autres où puiser des formes de vie différentes, des formes de vie émancipatrices, parce que ce monde du principe responsabilité ou du principe réalité, c'est un monde où l'on étouffe, on marche et on danse sur un volcan, et donc il faut pouvoir aussi se redonner l'espoir d'en changer.
Le principe de responsabilité n'est pas le principe de réalité, et peut y avoir une grande espérance dans la volonté de sauver le monde. C'est l'amour du monde qui habite le principe
responsabilité. Vous les opposez, principe espérance, vous dites qu'il a été supplanté par le principe responsabilité, et c'est le problème. C'est-à-dire que le principe responsabilité peut être tout à fait complémentaire et compatible avec le principe espérance qu'il s'agit à toute force de préserver.
Emmanuel Oeillet, vous voulez conclure ?
Non.
Vous voulez pas conclure ?
Non.
Ah bon,
comment 68 ?
Comment 68 ? Il n'y aura pas de conclusion.
Continuons le combat.
Écoutez, puisque vous ne concluez pas, je vais vous remercier l'une et l'autre pour cette discussion qui m'a paru très passionnante, et je voudrais renvoyer à vos livres. Emmanuel Loyer, l'événement 68, il est publié aujourd'hui dans la collection Champs Histoire. Et Ludivine Bantini, 1968, de grand soir en petit matin, aux éditions du Seuil. J'ai également cité les années de Annie Ernaux, et puis aussi ce livre que je juge extrêmement intéressant, d'Arnaud Guigues, Truffaut et Godard, publié aux éditions du CNRS. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site replique-franceculture.fr, où l'émission est téléchargeable pendant un an et écoutable à vie. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La banlieue brûle-t-elle ». Mes invités seront Raphaël Baquet et Manon Kerwil-Brunel. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Jean Frédérix, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.